BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, au sommaire, eh bien, un zoom sur une marque iconique de l'art de vivre à la française qui s'exporte dans le monde entier, les pianos de cuisson Lacornue, produits en France depuis plus d'un siècle. Alors, comment la marque a-t-elle évolué depuis 1908? Comment s'adapte-t-elle aux nouveaux enjeux de l'époque? On en parlera dans un instant avec le directeur général de Lacornue, Édouard Laclavière. On parlera également des Curlis et compagnons de nos apéritifs depuis tout juste 60 ans. Et derrière Curlis, eh bien, il y a aussi un groupe, Intersnack, avec notamment la marque Vico. Et tout cela, c'est du Made in Picardie. Notre deuxième invité est Geneviève Louis Hooper, la directrice générale d'Intersnack France. Enfin, connaissez-vous le yacón, un tubercule importé du Pérou et qui, nous dit-on, est largement meilleur pour la santé que le sucre blanc? Yacón & Co. commercialise en France des produits à base de yacón et même des champs de yacón pourraient bientôt voir le jour en France. On en parlera avec Raphaëlla Nolo, la cofondatrice de Yacón & Co. Mais tout d'abord, un événement, le grand retour bientôt de la BFM Academy sur BFM Business. Après une année de pause, le plus ancien concours de start-up en France va revenir en 2024. Il y aura des sélections en région, plus une grande finale à Paris dans quelques mois. Et c'est toujours Laure Closier qui est aux manettes de l'émission. Elle nous dit tout sur cette 17e édition à venir de la BFM Academy.
Jérôme, votre émission, elle s'appelle « La France a tout pour réussir ». Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour vous. À partir de lundi, la BFM Academy revient. Vous ne savez plus si c'est la saison 17, la saison 16. Peu importe, c'est une excellente nouvelle. Les candidatures sont ouvertes. BFMacademy.fr, vous êtes entrepreneur, vous croyez en votre projet, vous avez moins de 3 ans d'existence, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce programme est fait pour vous, c'est le plus vieux concours de start-up de l'audiovisuel. On vous attend, vous déposez votre dossier, vous venez après passer des castings en région et vous rejoignez ce programme phare de BFM Business. Il y a 150 000 euros de dotation publicitaire à gagner. Ça vaut le coup, on vous attend.
Voilà donc l'ouverture des candidatures pour la BFM Academy 2024 à partir de ce lundi. Tous les détails sur le site bfmacademy.fr. À présent, l'un des fleurons de l'excellence et de la beauté à la française, les cuisinières, ou plutôt les pianos de cuisson, Lacornue, une maison créée en 1908, il y a donc 116 ans, et dont le nouveau directeur général Édouard Laclavière est en plateau avec nous. Bonjour Édouard.
Bonjour Jérôme.
Et on va revenir sur l'histoire, sur la gamme et sur les grandes données économiques de Lacornue. Mais tout d'abord, eh bien, comment se passent vos premiers mois à vous dans cette maison qui, je le disais, incarne l'excellence à la française? Vous-même, vous venez d'un autre groupe qui incarne lui aussi à sa façon et dans son secteur l'excellence à la française, c'est L'Oréal. Comment se passent vos premiers mois à la tête de cette maison?
Il y a une ligne conductrice. Déjà avant, j'aidais à embellir entre autres les femmes et maintenant je participe à l'embellissement des cuisines, donc ça reste la même ligne directrice. Après, les premiers mois se passent très très bien. J'ai une super équipe sur laquelle je peux m'appuyer et on a plein de projets à développer.
On va parler de tous ces projets. D'abord un petit peu d'histoire. Lacornue, c'est d'abord une entreprise familiale qui a été incarnée pendant plus d'un siècle par la famille Dupuis. On va voir aussi une photo. Donc il y a eu Albert Dupuis, André Dupuis et Xavier Dupuis, donc de 1908 à 2015. C'est aussi, donc, on l'a vu il y a quelques instants, une invention en 1908, le four voûte au gaz qui permet une meilleure cuisson des aliments, plus harmonieuse et moins sèche. C'était à l'époque révolutionnaire. Et puis donc des ateliers, d'abord à Courbevoie, c'était dès 1908, et depuis 1987 à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val d'Oise. Donc ça reste toujours en France, et est-ce que ça le restera quoi qu'il advienne? On ne peut pas délocaliser un tel savoir-faire.
Ah non, c'est tout à fait pas du tout à l'heure du jour. C'est ce qui fait la signature de Lacornue, c'est le Made in France. On a une vingtaine d'artisans qui fabriquent les pianos de cuisson. En fait, nous faisons rentrer de la tôle qu'on va à la commande couper, plier, souder, émailler et après assembler dans nos ateliers. Donc il y a un réel savoir-faire qui va rester en France.
Et vos ateliers, quand j'ai vu les chiffres, ça m'étonne qu'il y ait aussi peu de monde pour une telle production. On reviendra sur les chiffres dans quelques instants de la production, mais les effectifs, je crois que vous êtes 70 personnes en fait, hein, c'est cela?
Exactement, c'est aussi dû qu'on utilise le savoir-faire de certains sous-traitants et donc ça ne rentre pas dans nos effectifs.
Et la formation, j'imagine que quand on entre chez Lacornue, il y a un besoin de formation, d'aller faire les bons gestes sur les bons matériaux. Vous formez en interne, comment se passent
vos
formations?
Exactement, c'est effectivement très important. On a des personnes qui ont dans l'entreprise pas loin de 30 ans d'ancienneté et on a recruté des jeunes. pour que les anciens puissent les faire monter en compétences.
Un petit peu d'histoire encore sur des gammes qui certes évoluent, mais il y a quand même des standards, des incontournables. Il y a eu la ligne Château créée dans les années 60, la ligne Flamberge en 75. Ces deux gammes d'ailleurs ont été relookées en 2008. On sent quand même aussi dans l'offre une stabilité. C'est important aussi.
Exactement. Ça reste, on garde notre héritage, mais on propose 7 millions de configurations possibles. Et ça passe aussi par des partenariats avec des grands designers comme Ferris Raffaoli, qui est connu pour avoir refait la maison du rappeur Drake. Un grand cuisiniste qui s'appelle Matthew Quinn. Ou plus récemment avec un joaillier qui s'appelle Mathieu Tourner, à qui on a fait une configuration spéciale.
Et ça, ce sont des éditions limitées ?
Non, au début ça l'était, et puis vu le succès, en fait ça reste au catalogue.
Le prix, parce qu'évidemment donc on est là sur du piano de cuisson, on ne parle pas évidemment de cuisinière ni de cuisine simple, on est sur du piano de cuisson. Quelle est la fourchette moyenne et quels sont les tarifs peut-être les plus extravagants des commandes que vous avez dû gérer ?
Alors, l'entrée de gamme est autour de 10 000 euros à peu près, notre facturation moyenne est autour de 60 000 euros. Et il y a deux jours, on a reçu une commande, la plus grosse commande qu'on ait jamais reçue, de 800 000 euros. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas juste le piano de cuisson à 800 000 euros, mais on propose aussi des meubles, tous émaillés. Et donc là, c'est une cuisine complète avec deux îlots. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est effectivement une commande qu'on a reçue. Et les équipes sont très très fières et se mettent dès à présent à travailler sur la production.
C'est dans quel pays cette commande faramineuse de 800 000 euros ?
C'est les États-Unis.
C'est les États-Unis. Ça nous amène donc à la typologie de vos clients. Assez peu de ventes en France, en fait.
Bah, ça représente un petit pourcent du chiffre d'affaires. On se développe effectivement. L'international est extrêmement important. Les États-Unis, ça représente plus de 50% de notre chiffre d'affaires. Et puis après, il y a un petit peu en Amérique latine, en Asie, un peu la région des Dubaï. Et puis l'Europe est un pays important aussi, la Suisse, l'Allemagne.
Mais 90% donc des ventes se font hors de France.
Exactement.
Vos clients, parfois il y a de la communication qui est faite sur leur propre réseau. Vous avez cité Drake, mais aussi, est-ce que vous communiquez un peu sur toutes les stars qui vous font confiance ? Je pense à Brad Pitt, je pense à Céline Dion, à George Clooney. Est-ce que c'est aussi pour vous un bon vecteur de communication ?
C'est généralement plus eux qui ont communiqué et qui étaient fiers de s'offrir un morceau de France. Nous, on essaie d'être discret sur nos clients. Je peux par exemple citer Arditi en France, qui c'était dans Paris Match, donc on peut le citer. Après, il y a des personnes connues régulièrement qui nous passent des commandes. Ouais.
Vous parliez donc des prix. Est-ce que vous avez été impacté dans la production par la hausse de l'énergie, la hausse des matières premières, ou est-ce que c'est resté à la marge vu les niveaux déjà très élevés des prix de votre catalogue ?
On a été obligé d'augmenter nos prix, bien sûr, puisque on dépend beaucoup des coûts d'énergie, on utilise beaucoup d'électricité et du gaz pour chauffer les mailles, et donc ça a eu un impact sur nos coûts, donc on a été effectivement obligé de répercuter ces coûts sur le prix de vente de nos produits.
Vous parliez des nouvelles gammes parfois avec des partenariats. Est-ce que vous avez aussi ce besoin de rajeunir votre clientèle ? On imagine qu'à de tels prix, il faut donc évidemment du pouvoir d'achat, donc c'est pas forcément les plus jeunes, mais est-ce que quand même vous avez une volonté de cibler peut-être une clientèle plus jeune, plus citadine, et via quel produit ?
Alors, rajeunir, on est très content des clients qu'on a, on va élargir
avec une cible plus jeune, c'est mieux comme ça.
Si je peux me permettre.
Voilà, vous avez
effectivement, à travers des produits, par exemple, on vient de lancer le Castel 60, qui est un produit 60 cm pour des personnes plus citadines, et aussi une gamme qu'on appelle moderne, avec un design un petit peu plus épuré et plus contemporain. Et aussi, on a des défis, puisque le gaz est de plus en plus interdit dans le monde, même dans des immeubles nouveaux. Donc on est en train de passer une électrification, et on vient de lancer, il y a quelques jours, au salon du mobilier à Milan, une plaque qu'on appelle Anywhere, où vous mettiez votre casserole, l'induction va suivre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas cantonné juste à l'espace qui est alloué. Donc effectivement, on apporte de l'innovation pour être présent, pour plaire à la clientèle effectivement plus jeune, ou qui n'a pas forcément un château et qui a un bien un peu plus petit.
Un mot sur les objectifs de chiffre d'affaires. Vous avez réalisé 39 millions en 2023. Vos objectifs pour 2024, voire les prochaines années ?
On veut continuer à augmenter de à peu près 10% du chiffre d'affaires. La croissance n'est pas évidente à trouver, en tout cas sur l'expansion géographique, puisqu'on est dépendant d'un certain nombre de certificats. Et donc, quand j'étais arrivé, je pensais qu'on pouvait aller distribués dans le monde entier. Malheureusement, il y a un processus assez long pour faire certifier les produits, pour pouvoir les exporter en Corée, différents pays.
Et une toute dernière question sur le fait que depuis 20 ans, en fait, ce n'est plus un groupe français au sens capitalistique, c'est passé par le groupe britannique Agar Range Master, et depuis 2015, l'américain Middleby, il n'y a pas une volonté de revenir à un actionnariat français, ou bien ça vous satisfait et ça va rester comme ça?
Alors, je n'ai pas trop mon mot à dire. S'ils vendent, peut-être que je serai acheteur, mais pour l'instant, ils veulent, je pense, le garder. Après, on a beaucoup d'indépendance, ils nous laissent, c'est un groupe qui fait 3 milliards, et nous, on fait à peu près 39 millions de chiffre d'affaires. Donc, j'ai pas mal d'indépendance. Effectivement, pour certains investissements, je dois avoir un OK, mais ils me laissent libre, ainsi que mes équipes, sur la politique marketing, la distribution. Donc, c'est...
Et le plus important, c'est que ça reste en France.
La production. Et voilà, exactement.
Merci beaucoup donc pour cette présentation de La Cornue, une belle marque qu'on était ravis de mettre en avant dans cette émission. Et un anniversaire à présent, celui d'une marque très connue et très consommée par les Français à l'apéritif, c'est Curly qui fête ses 60 ans. Bonjour Geneviève Louis Hooper.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes la directrice générale d'Intersnack qui compte donc parmi ses marques Curly, qui est elle-même sous la marque Ombrelle Vico. Et avant donc de parler plus spécifiquement de ces cacahuètes soufflées dont on va parler dans un petit instant, on va resituer Intersnack, groupe alimentaire allemand présent dans une trentaine de pays à l'international et présent en France depuis la fin des années 90. C'est bien cela l'histoire d'Intersnack et de la filière France.
Tout à fait. Donc le groupe Intersnack aujourd'hui, plus de 4 milliards de chiffre d'affaires en produisant et commercialisant des produits salés pour apéritifs. Donc on met derrière ça, bien sûr, les curly, mais aussi des chips. Une particularité quand même de ce groupe, c'est que chaque pays commercialise des marques locales. Donc voilà, et aujourd'hui on va dire que c'est ça porte, ça a du sens, et d'où aussi le maintien, une vraie volonté de maintenir la production en France pour des raisons de marque, mais aussi pour des raisons d'éviter le transport de ces produits qui sont des produits quand même relativement légers et coûteux en logistique.
Alors la France, justement, donc filiale créée en 2007 suite au rachat de plusieurs marques historiques, on va voir une infographie qui explique bien les choses. En fait, donc, il y a une marque Ombrelle qui est Vico, sous laquelle on retrouve notamment Curly, Monster Munch, Apéri Fruits et Baf, entre autres. Il y a aussi le rachat du britannique Tyrells en 2020. Voilà. Et ça, donc, c'est votre périmètre France.
Là, le périmètre, Vico, ça vient de Vic-sur-Aisne, Vic Coopérative. Voilà, parce que la société a été fondée par ceux qui continuent d'ailleurs à nous approvisionner en pommes de terre localement, par leur grands-parents, hein, pour la plupart. Donc c'est quand même un peu du marketing agricole, Vico, mais on y tient. On n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas nos racines, et c'est important pour nous d'avoir cette marque Ombrelle Vico qui porte toutes les valeurs qu'on veut développer. Et bien sûr, sous Vico, il y a Curly qui a fêté ses 60 ans. Et qui est en pleine forme.
Et sur cette usine, si je reste sur cette usine de Vic-sur-Aisne, fin 2023, 330 salariés, un des plus gros employeurs privés du département. Et en préparant cette émission, j'ai vu dans le journal L'Union qu'il y avait des embauches prévues. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces embauches?
Oui, tout à fait. Le marché est en croissance, Intersnack est en croissance. Donc évidemment, on a toujours la volonté d'étendre la production là où on commercialise. Donc le site de Vic-sur-Aisne, je fais un appel. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à contacter notre service ressources humaines. On recrute des ouvriers, mais aussi des ingénieurs, du personnel en R&D. Donc on est en constant développement. Donc évidemment, ceux qui sont intéressés par un poste à Vic-sur-Aisne ou
peuvent aller sur le site Intersnack.
Aller sur le site d'Intersnack et
Intersnack, c'est aussi un autre site de production en Isère à Charvieux-Chavagneux suite à la fusion avec les marques Benoît SNC. Donc là, ce sont des graines qui sont produites là-bas. Et puis donc les équipes commerciales et marketing sont à Roissy.
C'est ça.
Donc ça nous fait un groupe de combien de personnes en France à peu près?
600 personnes environ.
Travaille pour Intersnack. On en vient donc à cette belle sexagénaire Curly qui fête donc ses 60 ans. Taux de notoriété très élevé, plus de 80%.
82% de taux de notoriété, 35% de taux de pénétration. Ça veut dire que un foyer sur trois en France achète au moins une fois dans l'année un paquet de Curly. Beaucoup y reviennent puisqu'on a un taux de réachat qui est aussi proche de 55%. Preuve que le produit les convainc. Et donc voilà, c'est une marque qui est forte et c'est une marque sur laquelle il ne faut pas qu'on s'endorme. Donc on a évidemment beaucoup de projets. On a commencé par vraiment retravailler l'ensemble de nos recettes pour qu'elles soient plus clean, pour qu'elles soient...
Un peu plus healthy, comme on dit en mode français.
Tout à fait. Donc sans huile de palme, sans exhausteur de goût, sans arôme artificiel. Voilà, on travaille aussi le dosage du taux de sel, mais un produit salé pour l'apéritif en contient toujours.
Il en faut un peu.
Et ce soit bon.
Et on est dans le domaine des extrudés. Moi, le mot, je le connaissais, mais sans bien savoir ce que ça veut dire. C'est quoi le domaine des extrudés, en quelques mots simples, dans le domaine des biscuits apéritifs?
Alors, vous avez, quand on parle de produits salés pour apéritifs, on a plusieurs catégories. On évoquait les graines, il y a les chips également. Et en dessous, vous avez un segment, c'est un peu un jargon industriel, qu'on appelle spécialité. Et dans les spécialités, vous avez les extrudés. Et Curly est la première marque des extrudés avec pratiquement 20% de part de marché.
Avec 45 millions de paquets vendus l'année 2023, ça fait 125 000 paquets vendus par jour, je crois.
Oui, c'est
Mais la concurrence, elle est là. Comment vous vous adaptez aux marques de distributeurs, mais aussi à des produits qui viennent d'autres pays? Comment est-ce qu'on gère une situation qui n'est pas monopolistique, mais qui l'est de moins en moins? Et comment est-ce qu'on gère ça?
Alors, ce marché est un marché fabuleux, puisqu'il est en croissance continue en France, et on pense que la consommation par capita n'est pas encore à son maximum. C'est un marché dynamique, c'est pas un marché de destination, c'est un marché d'offres, donc ça veut dire que c'est un marché qui est en constante dynamique et sur laquelle on peut pas s'endormir. Oui, il y a de la concurrence.
Mais ça veut dire qu'on fait quoi? On change les recettes, on change les modes de production tels que vous nous l'avez dit, ou est-ce qu'il y a d'autres armes marketing?
On anime, on fait de la pub, on innove, on s'intéresse à nos consommateurs, on leur parle. Et aussi, on développe sans cesse autour de cette marque. Donc, cette marque Curly, aujourd'hui, ça n'est plus qu'un soufflet.
Vous en avez quelques-uns, voilà.
Là, ça n'est plus qu'un soufflet cacahuète. Ça reste quand même notre locomotive.
C'est l'original, voilà.
Là, l'original, mais vous avez aussi le Curly Donuts, qui est quand même la première innovation de ces 10 dernières années sur cette catégorie.
Le crunchy en forçadé.
Notre petit dernier, c'est donc une texture beaucoup plus dense, beaucoup plus craquante. Le Curly Crunchy, nous allons lancer dans les prochaines semaines la variété émmentale, puisque les Français plébiscitent beaucoup la variété des goûts, et notamment le fromage.
Un mot, donc voilà, on a parlé des diversifications, c'est quoi les prochaines étapes? Donc il y a ce crunchy émental, il y a de nouveautés, vous avez donc lancé récemment, vous l'avez parlé, les donuts, les sweeties, les crunchy, il y a d'autres choses qui vont venir dans la marque Curly, pour reprendre votre expression, pour que la belle sexagénaire ne s'endorme pas.
Donc sur la marque Curly, on va intensifier notre communication, ça c'est le projet des prochains mois, aussi en visant un rajeunissement ou en tout cas un élargissement de la cible. Voilà, ça c'est ce qui va se passer sur la marque Curly, mais sous la marque Vico, les projets sont nombreux. Le dernier, c'est une gamme de chips street food, donc là aussi qui s'adresse à la génération, la Gen Z, et qui va inonder, on espère, les points de vente avant cette période faste des Jeux Olympiques.
Élargir la cible, pour reprendre l'expression qu'on a eue avec Edouard Laclavière, et pas simplement la rajeunir. C'est un peu plus complexe que ça. Merci beaucoup, Geneviève Louis Hooper. On va terminer cette émission avec une jeune start-up française qui a, elle, de grandes ambitions dans le marché émergent du Yacon, une alternative au sucre. On va tout vous expliquer donc avec Raffaella Nolo. Bonjour. Vous
Bonjour,
êtes
Jérôme.
La cofondatrice de Yacon & Co, créée en 2021. Expliquez-nous ce qu'est ce fameux Yacon.
Oui, Yacon & Co, c'est la première entreprise française qui commercialise et produit le sirop de Yacon. Donc le sirop Yacon, ça se vend dans ces petits pots-là. Donc c'est une alternative au sucre qui est bonne pour la santé. Elle est 4 fois moins riche en sucre qu'un sucre blanc ou de canne, et 2 fois moins calorique. Mais elle peut être utilisée comme un sucre normal. Hein. Faut imaginer que c'est vraiment dans le placard des Français et qu'on peut l'utiliser dans le gâteau au chocolat, dans les madeleines, dans les cakes, dans les brownies, dans les muffins, mais aussi cru, directement dans le fromage blanc ou dans le thé ou le café. Ça remplace 100% des usages du sucre, version sain.
Et le Yacon, donc c'est à la base, c'est un tubercule, hein, c'est ça?
Oui.
Mais qui n'est pas vraiment produit en France, dont la production essentiellement se fait au Pérou. Donc c'est là que vous êtes allé le repérer, l'identifier et aller le chercher pour l'importer en France ?
Oui, alors il faut savoir que les Incas consommaient donc le tubercule de Yacon depuis toujours. Même aujourd'hui encore, les Péruviens consomment le tubercule entier. Ils considèrent ça un peu comme un fruit. En fait, c'est un goût de pastèque. D'ailleurs, en France, on l'appelle la poire de terre. Et on a commencé de façon très expérimentale à effectivement le faire pousser en France.
Dans notre quotidien, on a déjà des alternatives, le sirop d'agave, le sirop d'érable, certains mettent même du miel. C'est encore mieux en termes de nutrition, de promesses de santé que ces trois produits.
Oui, effectivement, en fait, il y a deux types d'alternatives au sucre aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les édulcorants. Donc, je pense par exemple à l'aspartame, la stevia. C'est de l'ultra-transformation. L'OMS a sorti un rapport en juin 2023 stipulant qu'il fallait éviter de consommer ce type de sucre pour éviter d'endommager sa santé. Donc ça a fait un gros buzz dans les médias. Et puis ensuite, il y a l'agave, le sirop d'érable et le miel qui a bonne image, mais ce sont des sucres qui sont très riches en sucre. 80% à 90%, c'est-à-dire que ça élève la glycémie, et c'est-à-dire qu'une personne diabétique, une personne qui souhaite perdre du poids ou une personne qui fait attention à sa santé ne se dirigera pas vers ce type de sucre.
Alors, à l'heure actuelle, toute la production, vous allez la chercher donc au Pérou, c'est transformé sur place et vous l'importez et vous le conditionnez. C'est bien ça votre schéma actuel, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors, on va commencer à produire nous-mêmes au Pérou aussi avec notre usine qui est en cours de construction, qui va nous permettre de faire jusqu'à 400 tonnes par an.
Et faire de vous le leader mondial dans le secteur si les concurrents restent au même niveau, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, il y a des problèmes d'approvisionnement de sirop d'Yacon parce que la demande est tellement forte qu'on ne peut pas nourrir tout le monde d'un coup. Donc aujourd'hui, il y a à peu près une centaine de tonnes par an qui est produite, sauf qu'on estime aujourd'hui déjà le marché à 200 ou 250 tonnes. Donc rien qu'avec notre usine, on va pouvoir déjà nourrir tout le monde.
C'est à quelle échéance l'usine au Pérou ?
On est déjà en train de la construire. En juin, les machines arrivent, on crée la ligne, et puis d'ici à juillet, août, on aura notre première production à nous.
Et le conditionnement restera fait en France ?
Le conditionnement restera fait en France. On va faire venir donc par bateau dans des containers, et ensuite on fait le reconditionnement. Comme on a notre ligne de production qui est à Vichy depuis nos débuts, on a toujours eu vraiment à cœur de produire nous-mêmes en fait et en France aussi un maximum de choses. Aujourd'hui, on pouvait pas produire encore en France parce que tout simplement il n'y a pas suffisamment de Yacon en France. Le Pérou est le seul pays qui a suffisamment de matières premières pour en faire un sirop.
Mais la production en France est un objectif à plus ou moins long terme, et je crois que vous avez quelques tests en cours dans le Morbihan.
Oui, on a des tests en cours. Alors, quand on développe un nouveau produit comme ça, comme ce n'est pas les mêmes conditions exactement que le Pérou, au Pérou, ça pousse à 3000 mètres d'altitude. Il y a une super irrigation naturelle, en fait. Donc ça aussi, ça nous tient à cœur, parce que du coup, il n'y a pas vraiment d'intrants ni chimiques comme des pesticides, ni d'eau d'irrigation artificielle, parce que ça vient des lacs qui sont à 4000 mètres d'altitude et ça descend directement sur les cultures. Donc, il faut qu'on voit comment est-ce qu'on peut faire du tubercule français un produit aussi écologique que quand c'est produit au Pérou.
Et c'est à quelle échéance, ça ? C'est 1, 2, 3, 5 ans ? C'est plus ? C'est moins ?
Alors, on a démarré en 2021, donc quand on a démarré notre boîte. Donc, je dirais à peu près, je pense qu'on va avoir notre première vraie production en 2026 ou 2027.
Vous avez démarré la boîte, vous êtes trois. Donc, vous avez Clément Poyette, qui est un des cofondateurs. Et puis Thierry, vous ne communiquez pas sur son nom. Mais en fait, lui, il était concerné par les problèmes de sucre et de diabète de type 2. Il en a pris. Je crois qu'il ne se pique plus à l'insuline depuis. La validation scientifique de ces promesses, c'est certain. C'est comment est-ce qu'on communique sur des domaines un peu touchy qui est celui de la santé.
Alors, dans le cas de Thierry, c'est vraiment un cas particulier. Maintenant, c'est vrai que son médecin traitant avait déjà vu des cas comme le sien, c'est-à-dire que le diabète de type 2, c'est un type de diabète qui en fait s'acquiert au cours de la vie par rapport à notre mode de consommation, par rapport à notre poids. Donc Thierry, il a tout simplement, en consommant le Yacon, ça lui a permis de perdre du poids, et en perdant du poids, il a pu arrêter de se piquer à l'insuline. Donc c'est plutôt la perte de poids qui lui a permis d'arrêter de se piquer. On n'est pas en train de dire que le Yacon est un médicament.
Un mot sur vos canaux de distribution. Vous êtes dans des magasins bio essentiellement à l'heure actuelle. Combien de points de vente et la répartition donc du online par rapport au offline ?
Alors, on est environ dans 700 magasins bio, mais c'est en train d'augmenter énormément parce qu'on a plein de nouvelles demandes. On est chez Naturalia, Bio C'est Bon, Sobio, La Vie Claire, bientôt, et dans quelques biocoop. Et puis, on vend aussi sur notre site internet yacon.co, et on a une répartition environ de 50% sur chacun des canaux.
Donc ça, c'est du B2C. Le B2B vous intéresse aussi pour aller vers les hôtels, les restaurants, etc. directement.
Oui, et même au-delà de ça, on a une conviction personnelle. En fait, on est vraiment une entreprise à mission. On veut désucrer les Français et peut-être la planète un jour, si on y arrive avec plaisir. Et donc, le but, c'est donc de partir avec notre marque, mais on est quand même assez petit. Donc, on va se mettre en cheval de Troie chez les industriels. On est déjà en recherche et développement chez des grands groupes. Je ne peux pas communiquer les noms aujourd'hui parce que c'est confidentiel. Mais le but, c'est vraiment d'aller mettre du sirop diacone dans vos petits écoliers, vos pépitos, vos granolas, enfin vraiment les produits du quotidien qu'on a à la maison, sur la table du petit-déj ou du goûter, pour venir désucrer et améliorer le Nutri-Score aussi des industriels qui recherchent ça, parce que le Nutri-Score est en train de changer de règle et ça doit être implémenté d'ici à 2025, donc l'impact va être gros.
En quelques secondes, vraiment, il nous reste assez peu de temps sur votre passage à qui va être mon associé début 2023 sur M6, début 2024 même, non 24 c'est ça, voilà.
Ouais.
Ça a eu un impact fou, un boost fou sur vos commandes dans les heures et les jours qui ont suivi la diffusion de cette émission.
Oui, effectivement, on a fait x10 par rapport à l'année d'avance et on a été le meilleur projet de qui veut être mon associé cette année. J'en discutais encore hier avec des amis entrepreneurs qui me disaient que vraiment, on avait vraiment battu les records. Donc on en est très fiers et c'est quand même la preuve qu'aujourd'hui, les Français cherchent une alternative au sucre. Malheureusement, il y en a pas mal qui existent, mais qui ne sont pas gourmandes. Et je pense que c'est l'aspect gourmand aussi qui a attiré les personnes. Et d'ailleurs, on voit bien sur le plateau, Tony Parker s'est levé, s'est jeté sur les gâteaux qu'on avait préparés. Enfin, ça a été un vrai buzz.
Mais c'est Kelly Massol que l'on a reçu dans cette émission qui vous a suivi avec 250 000 euros investis. Il y avait eu une levée de fonds de 2 millions d'euros. Merci beaucoup à Raphaëlla. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été les invités de la France à tout pour réussir. Je précise que Yacon & Co sera sur la Foire de Paris à partir de la semaine prochaine. La Foire de Paris qui commence le 1er mai. Et nous-mêmes, nous aurons une émission spéciale tournée sur place avec le directeur de la Foire, mais aussi un zoom sur les enseignes cas par cas, Fermob ou encore les t-shirts flottis. La France a tout pour réussir, vous le savez, est diffusée en télé, en radio et sur tous nos supports digitaux. À la semaine prochaine, donc à la Foire de Paris. Très bon week-end et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.